marque-page.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau marque-page. Je m'apprête à vous présenter une pièce de théâtre dont le choix m'a posé quelques difficultés. Ces difficultés ne portent pas sur la pièce en elle-même, mais sur la biographie de son auteur. Dans un premier temps, j'ai préféré interrompre la préparation de cette chronique. Et après réflexion, j'ai décidé de la poursuivre et de la finaliser. Je vous expliquerai pourquoi. La pièce de théâtre que j'ai choisie est issue du répertoire français contemporain. Elle a été écrite par Henri de Monterland. Henri de Monterland est né en 1895 dans une famille de la haute bourgeoisie parisienne. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il a 19 ans. En raison de sa faible constitution physique, il est affecté au service auxiliaire. Le service auxiliaire était réservé aux hommes qui présentaient une inaptitude au combat. Ils étaient mobilisés sur des missions annexes, comme la réparation du matériel ou la gestion des hôpitaux. En février 1918, il se porte finalement volontaire pour rejoindre un régiment d'infanterie de première ligne. Il revient du front grièvement blessé, mais survit, et se voit décoré de la Croix de guerre. Son expérience du combat le marque profondément et nourrit ses premières œuvres littéraires. Il y fait l'éloge du courage des combattants, de la fraternité dans les tranchées, mais aussi du respect de l'adversaire qui s'est loyalement battu pour son pays. Si son expérience du combat est une source d'inspiration pour lui, elle n'en reste pas moins traumatisante. Afin de pouvoir prendre du recul, Henri de Monterland choisit de voyager et sillonne tout le bassin méditerranéen. Pendant ses voyages, il consacre une large part de son temps à l'écriture. Il devient aussi un intellectuel plus engagé. À cet égard, ses séjours au Maghreb lui permettent de découvrir le système colonial français, qui le révolte. Il critique la colonisation dans certaines de ses œuvres. En outre, Henri de Monterland fait partie des intellectuels qui dénoncent l'attitude passive de la France face à la montée en puissance de l'Allemagne nazie. Il s'inquiète aussi de l'absence de sentiment national chez les Français face aux dangers que représente l'Allemagne. En 1940, les séquelles de ses blessures de la Première Guerre mondiale et son âge ne lui permettent pas de rejoindre l'armée. Toutefois, il se rend sur le front en tant que correspondant de guerre. Il est alors aux premières loges pour assister à la défaite de l'armée française. À première vue, Henri de Monterland est un intellectuel engagé pour des causes justes et un ancien combattant tout à fait respectable. Pourtant, pour ceux qui le connaissent, vous savez déjà à quel point la réputation d'Henri de Monterland est sulfureuse. En effet, certains de ses actes sont discutables, voire condamnables. Tout d'abord, Henri de Monterland aurait entretenu toute sa vie des relations sexuelles avec de jeunes adolescents. Ses séjours au Maghreb, loin de se limiter à l'étude et la dénonciation de la colonisation française, lui auraient offert des opportunités de rencontre de cette nature. Ensuite, son attitude face à l'occupation allemande est tout à fait surprenante. Henri de Monterland est incontestablement un patriote. Or, il n'a jamais dénoncé l'occupation. L'occupation ne semble d'ailleurs avoir eu aucune influence sur les œuvres qu'il a publiées au cours de ses années sombres. Parmi ces dernières se distingue la pièce de théâtre que j'ai évoquée en introduction. Elle s'intitule « La Reine morte » et a été jouée pour la première fois en décembre 1942. « La Reine morte » est composée de trois actes. L'intrigue s'inspire d'une histoire vraie qui s'est déroulée au Moyen-Âge. Elle met en scène Ferrante, le roi du Portugal, qui souhaite marier son fils Pedro avec l'infante de Navarre. La pièce s'ouvre sur une entrevue entre le roi et l'infante. Le roi apprend par l'infante que son fils refuse de se marier avec elle. Si Pedro, le fils de Ferrante, refuse ce mariage d'État, c'est parce qu'il est amoureux d'une autre femme. Cette femme s'appelle Inès de Castro. Inès et Pedro se sont rencontrés à la cour. Inès est noble de naissance. Néanmoins, elle est l'enfant illégitime d'un gentilhomme de Galice et d'une dame portugaise. Elle est donc loin d'être la candidate idéale pour épouser Pedro. Ferrante, de son côté, ne parvient pas à convaincre son fils d'accepter le mariage avec l'infante de Navarre. Devant l'insuccès de son entreprise auprès de Pedro, il décide de rencontrer Inès et de la convaincre à son tour d'abandonner son fils. Mais Inès refuse à son tour. Et pour cause. Pedro et elle ne sont pas seulement amoureux l'un de l'autre. ils se sont aussi mariés dans le plus grand secret. La fureur de Ferrand redouble. Son fils a non seulement épousé Inès sans le consulter, mais il n'a surtout pas eu le courage de le lui avouer. Ferrand considère son fils comme un lâche. Il ordonne son arrestation et son emprisonnement. Ferrand consulte ensuite ses conseillers. Une première solution est envisagée, à savoir la dissolution par le pape du mariage entre Pedro et Inès. Or, cette solution est rapidement écartée, car le roi et le pape sont en conflit. Une seconde solution est suggérée, faire assassiner Inès. Ferrand éprouve beaucoup de sympathie pour Inès, dont le comportement prouve qu'elle est une femme désintéressée et soucieuse de son entourage. Il écarte aussi cette hypothèse. Mais, malheureusement pour Inès, une menace pèse encore sur elle. En effet, le roi ne sait pas encore qu'elle est enceinte. Or, cet élément pourrait fragiliser sa position déjà précaire à la cour. Si vous souhaitez connaître la suite et le dénouement de l'intrigue, je vous donne rendez-vous à l'abbaye de Bordeaux, où la reine morte peut être empruntée. La pièce est disponible à la Bibliothèque de Lettres et Sciences Humaines de Pessac. En attendant de vous la procurer, pourquoi je vous recommande la lecture de cette pièce, malgré les réserves que j'ai formulées à l'égard de Henri de Monterland. Je lève immédiatement toute inquiétude. Henri de Monterland ne fait nullement l'apologie dans cette pièce des comportements qui lui sont actuellement reprochés, à savoir la pédérastie ou la misogynie. Indépendamment du contexte ou de son auteur, cette pièce est passionnante. Le lecteur, ou le spectateur, est tenu en haleine du début à la fin de l'intrigue. Comme toute tragédie, l'intrigue ne progresse pas tant par les actions que par les dialogues. Pour autant, le moindre propos échangé est susceptible de faire basculer la position de chaque personnage. Les dialogues sont riches, intenses et profonds, notamment les propos échangés entre Ferrand, Inès et l'infante. Le style employé par Henri de Monterland reste malgré tout très accessible, moderne et efficace. Pour ma part, je trouve cette pièce intrigante, en raison même du contexte historique dans lequel elle a été écrite et présentée. Je vous disais qu'elle avait été jouée pour la première fois en 1942. À première vue, cette histoire d'amour contrariée par la raison d'État n'a aucun lien avec l'occupation allemande. D'ailleurs, les critiques et analyses que j'ai pu lire à son sujet ne font jamais référence à ce contexte. Mais à mon sens, il est très difficile de penser que le choix de ce sujet est d'ordre strictement artistique pour Henri de Monterland. En y réfléchissant, j'aurais plutôt tendance à considérer que Henri de Monterland propose dans La Reine morte un état de ses réflexions sur sa propre attitude vis-à-vis de la France occupée. Déjà, le titre de La Reine morte suggère que le personnage central de l'intrigue serait une femme, en l'occurrence Inès de Castro ou l'infante de Navarre. Or, vous vous rendrez compte à la lecture de la pièce qu'il n'en est rien. En effet, plus de la moitié des répliques est prononcée par Ferrand, le roi du Portugal. De par son statut, Ferrand est le personnage le plus puissant de l'intrigue. Tous les autres personnages sont d'un rang inférieur. Ferrand est celui qui a le pouvoir de décision. Or, il est le plus indécis de tous les personnages. Aussi, appréhender son caractère est très difficile. En outre, Ferrand est un roi très âgé. Il sait que sa mort est proche. Dans l'urgence de ses derniers instants, plus rien ne semble avoir pour lui d'importance. Il est amené à prendre des décisions dont les conséquences sont hors de proportion avec les éléments qui les ont motivés. Pourtant, il continue à tenir en haute estime la raison d'État. D'une certaine façon, l'infante de Navarre est son alter ego féminin, mais un alter ego idéal dont le caractère est plus net et affirmé. À ce propos, les noms infante et ferrante ont une consonance très similaire. Contrairement à Ferrante, l'infante est très jeune et surtout orgueilleuse. Elle revendique sa fierté d'être de sang royal et d'appartenir au royaume de Navarre. Elle s'applique à adopter un comportement digne de ses origines. Elle fait preuve de clairvoyance, quelles que soient les circonstances. À mon sens, le projet de mariage entre l'infante et Pedro était pour Ferrante un moyen de sauver son fils. En effet, Pedro est un personnage indécis comme son père, alors qu'il n'a pas l'excuse de la vieillesse. Il est un fils décevant et superficiel, qui ne suscite ni espoir ni fierté chez son père. Contrairement à l'infante et même à Inès, qui trouvent leur grandeur dans l'expression sincère de leurs désirs, Pedro ne pense qu'à son bonheur, sans considération pour ce qu'il représente. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire en ce sens par rapport à la fin, mais je préfère ne rien vous dévoiler. Pour résumer, Monterland n'a pas pour objectif dans La Reine morte de reconstituer une intrigue historique, mais d'exprimer avec le maximum de vérité d'intensité et de profondeur un certain nombre de mouvements de l'âme humaine. Plus largement, je dirais que Monterlin exprime à travers le personnage de Ferrante sa propre lassitude de la vie, qui l'aurait empêché de prendre parti contre l'occupation. Cette hypothèse rendrait la lecture de cette pièce d'autant plus intéressante, dans la mesure où la plupart des œuvres produites à cette même période sont plutôt présentées comme l'expression d'une résistance à l'occupation allemande, je pense notamment à l'Antigone d'Hanouille. Sur ce, j'espère vous avoir donné envie de découvrir cette pièce et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau marque-page.